Le mois dernier, nous avions donc poursuivi la découverte de la liturgie syriaque et nous nous étions arrêtés à l'offertoire.
Voilà.
Bonsoir Henri.
Bonsoir Benjamin.
Et cette fois, donc nous allons poursuivre après la messe, la
On arrive
liturgie.
Au cœur même de la messe, à
Et
savoir.
notamment avec la découverte des anaphores, alors puisqu'il y en a, je crois, 81.
82 anaphores
Oups, pardon.
en usage dans la liturgie
Mes fiches ne sont pas à jour.
syriaque, enfin, qui ont été, puisque certaines sont tombées en désuétude, les syriaques orthodoxes, enfin jacobites, en utilisent quand même encore une quarantaine, à peu près couramment, et les catholiques ont restreint leur choix sur une dizaine d'anaphores.
Ce qu'on appelle anaphore, c'est l'équivalent du canon dans la messe latine, c'est
Voilà,
ça?
tout à fait. Canon ou dans le langage liturgique moderne, ce qu'on appelle aussi prière eucharistique, en fait. Bon, c'est le cœur même de la messe, c'est-à-dire là où s'effectue la consécration des saintes espèces. Les fidèles apportent le pain et le vin, et celui-ci devient le corps et le sang du Christ par l'action du prêtre qui réitère les gestes et les paroles du Christ à la scène et qui implore aussi, on va le voir, la venue du Saint-Esprit pour sanctifier ses dons. Et ensuite, évidemment, comme dans toute liturgie chrétienne, on a le Notre Père et la fraction du pain, le Notre Père et la communion des fidèles. Voilà.
Voilà, mais comme je le rappelle à chaque fois, mais ça va mieux en le disant, et puis c'est important de répéter aussi les choses importantes. Bien sûr, la musique est différente, bien sûr, il y a des différences, mais la structure de la messe, quelles que soient les églises, les liturgies, reste la même.
Il
Et
reste
c'est
la
ça
même.
qui est vraiment incroyable, c'est que même pour des églises séparées pendant des siècles et des millénaires, en fait, on prie de la même façon,
On
même
prie de
si
la même
la
façon.
forme, l'apparence est différente, mais le cœur des choses, c'est la même chose.
C'est tout à fait ça. Et une maxime ancienne du temps des pères de l'Église déjà disait que tout ce qui a été pratiqué de façon identique partout dans l'univers chrétien était réputé avoir été fondé par les apôtres. Donc on peut vraiment estimer que la structure de la messe, qui est identique en Orient, en Occident, avec évidemment beaucoup de variations de textes ou de détails, mais l'élan général de la célébration de la liturgie est le même. Et en fait, on peut attribuer cette ordonnance aux apôtres.
Alors, rassurez-nous, Henri de Villiers, vous n'allez pas nous passer les 82 anaphores.
Non, j'aurais bien voulu, mais d'une part,
Parce que sinon, il nous faudrait un an.
les textes sont très difficiles à trouver. Et puis, d'autre part, en fait, on va le voir, la plupart de ces anaphores sont des variations sur un thème donné. Et le thème donné, c'est l'anaphore la plus ancienne, la plus vénérable, la plus passionnante, la plus qui a soulevé le plus l'enthousiasme des liturgistes du 19e et du 20e siècle. C'est l'anaphore de Saint Jacques, frère du Seigneur. La plupart de ces anaphores sont attribuées à des saints, soit apôtres, soit pères de l'Église. La plupart de ces attributions sont sans doute fabuleuses, en fait, sauf pour celle de Saint-Jacques, on va en discuter. Par exemple, les catholiques utilisent couramment Saint-Jacques pour les dimanches et fêtes. L'anaphore de Saint-Jean, qui est plus courte, qui est une abréviation de Saint-Jacques. Celle de Saint-Pierre aussi, qui existe, mais probablement l'attribution est fabuleuse. De Saint-Jean Chrysostome, très différente de la liturgie de Saint-Jean Chrysostome connue par le rite byzantin. De Saint Sixte, un pape du 3e siècle en été. De Saint Matthieu, de Saint Basile, des saints apôtres, de Saint Eustate d'Antioche, qui était un évêque d'Antioche au 3e siècle, etc. Mais la plus intéressante, c'est celle de Saint Jacques, et quelques savants liturgistes se sont penchés et se penchent toujours, parce qu'il y a un travail d'édition actuellement en cours de ces 82 anaphores. Les liturgistes se sont penchés sur ces textes et montrent assez facilement que la plupart de ces liturgies, en fait, sont des déclinaisons de celle de Saint-Jacques, qui est la liturgie originelle et qui a servi de modèle et qui sert toujours de modèle.
D'accord, alors on va...
Celle de Saint-Jacques est du reste toujours obligatoire chez les Syriaques orthodoxes pour toutes les grandes fêtes. Voilà. Elle est un petit peu plus longue que les autres souvent, donc c'est pour ça qu'on utilise parfois des abréviations en quelque sorte. Elle est obligatoire pour les ordinations des prêtres, des diacres, du patriarche, le sacre des évêques. La première messe d'un nouveau prêtre aussi doit être dite avec l'anaphore de Saint-Jacques.
Mais alors attendez, je vous interromps, parce que j'ai oublié dans les annonces une grande nouvelle, c'est que l'église grecque melkite catholique a un nouveau patriarche.
Ah oui, tout à fait.
Voilà, donc il faut l'annoncer aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour ceux qui ne le savaient pas encore, puisque le patriarche précédent Grégoire III l'âme avait démissionné voilà, dans des circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas, et le synode donc de l'église melkite s'est réuni à Intrez au Liban, donc la résidence d'été patriarcale, et à la fin juin, très rapidement en fait, en 24 heures, ils ont élu, donc il fallait une majorité des deux tiers, et donc ils sont tombés rapidement d'accord, déjouant les pronostics des oiseaux de mauvais augure qui annonçaient une crise pour élire le patriarche. Ils ont élu Monseigneur Joseph Apsi, qui était donc jusqu'à présent vicaire patriarcal pour Damas, comme patriarche, donc son titre patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem, donc pour les Grecs melkites catholiques. Donc on lui souhaite longue vie.
Axios.
Voilà, et qu'il réussisse dans sa lourde tâche. Et donc, j'espère, je ne sais pas si je pourrais être à l'heure où on enregistre, je pourrais être à son intronisation à la messe.
La date est prévue.
À l'heure où on enregistre, je ne sais pas encore, j'ai l'impression. Ah oui. Pour l'instant, il était en train de recevoir les félicitations au Liban. Il n'est pas encore allé en Syrie. Il va venir en Syrie la semaine suivante. Ben après, il y a tout l'accueil, les félicitations à la fois du clergé, des nombreuses églises, puisqu'il y a beaucoup d'églises différentes, ensuite du clergé musulman, et puis également des autorités civiles, donc ça fait beaucoup, et puis du peuple, donc ça fait des longues et longues journées de félicitations. Donc une fois au Liban, et après il faut faire la même chose à Damas, puis il faudra aller aussi en Alexandrie pour la même chose. Donc, ce sont des grosses journées avant de pouvoir se mettre effectivement au travail. Donc, pardon, Henri.
Non, je vous en prie, c'était une nouvelle très importante.
Voilà, j'avais oublié de l'annoncer.
Donc, revenons à cette vénérable anaphore de Saint-Jacques le Mineur, Saint-Jacques, frère du Seigneur. Frère du Seigneur, évidemment qu'on ne se méprenne pas. Frère au sens araméen, ancien, c'est-à-dire cousin. Et la démonstration est assez facile de faire que ce que les évangiles dénomment les frères du Seigneur sont en fait les cousins du Christ, les cousins germains. Et Saint-Jacques le Mineur a été premier évêque de Jérusalem. Donc, c'est un patronage assez prestigieux pour ce texte vénérable. Et effectivement, il semblerait qu'on remonte là aux sources mêmes de la prière de l'église de Jérusalem. Alors, il y a plusieurs théories qui s'affrontent et beaucoup de liturgistes se sont passionnés sur ce texte vénérable qui est connu dans plusieurs recensions. Déjà, il existe en grec, ce qui est assez logique puisque l'église de Jérusalem, comme l'église d'Antioche en Syrie, était hellénophone. Et c'est la liturgie de ces deux patriarcats, manifestement, qui a été en usage jusqu'à l'époque des croisades. Et c'est au moment des croisades où Byzance a estimé que son rite était supérieur et a fait disparaître. C'est attaché à faire disparaître quasiment le rite ancien d'Antioche en grec, donc la liturgie de Saint-Jacques en grec. Alors cette liturgie de Saint-Jacques en grec, elle était encore célébrée à Jérusalem, dans le patriarcat de Jérusalem, le patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem, trois fois par an pour la fête de Saint-Jacques, le dimanche après Noël où on fait encore mémoire de Saint-Jacques, et puis la fête des 70 apôtres, puisque Saint-Jacques faisait partie des apôtres. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle était aussi célébrée. Oui, elle est aussi célébrée. Elle était aussi célébrée traditionnellement dans une île grecque, l'île de Xanthe, probablement qui avait dû recevoir une émigration de Grecs originaires de Syrie de façon ancienne. Et j'imagine que c'est ce qui a préserver ce rite, qu'on retrouvait par exemple à Rome au 8e siècle aussi. La liturgie de Saint-Jacques était célébrée dans un monastère grec romain. On a des manuscrits de cette époque. Là encore, probablement des moines qui s'étaient réfugiés à Rome au moment de la crise iconoclaste ou de l'avancée de l'islam en Palestine et en Syrie. Donc on a une première version grecque. On a la version de la liturgie de Saint-Jacques qui existe chez les Syriaques orthodoxes et catholiques. Cette liturgie à laquelle on s'attache en ces trois émissions, qui est une liturgie célébrée en araméen, en syriaque. Il s'agit d'une traduction en araméen de la liturgie grecque. On retrouve les formules grecques d'ailleurs, qui sont souvent...
Je vous l'avais dit, hein, mais il faut pour répéter pour les auditeurs. Oui. On parle de quel Saint-Jacques ?
Alors Saint-Jacques, l'un des 12 apôtres et frère du Seigneur.
Pas Saint-Jacques qui a fondé...
Pas Saint-Jacques le Majeur, qui est le patron de l'Espagne et dont le tombeau est vénéré à Saint-Jacques de Compostelle.
Mais pas Saint-Jacques ou Jacques dont l'église syriaque...
Ah non, Jacques Baradaï. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que alors, comme c'est quand même le patron fondateur de l'église de Jérusalem, beaucoup on va retrouver tout au long des âges beaucoup d'évêques, beaucoup de saints qui vont porter ce prénom de Jacques, dont le fondateur effectivement au 6e siècle de l'église miaphysite anti-calcédonienne de Syrie, donc l'église syriaque actuelle, qui s'intitule syriaque orthodoxe, mais qu'on ne se méprenne pas sur ce sens d'orthodoxe, c'est pas la même orthodoxie que ce que nous appelons nous orthodoxes en France couramment.
C'est créé justement contre les Grecs orthodoxes.
Jacques Baradaï, effectivement, est le premier fondateur de cette église, réellement, puisqu'il a instauré une hiérarchie parallèle à l'église officielle, l'église royale, l'église melkite, un terme dérivé de l'arabe qui indique qu'on est l'église royale, c'est-à-dire l'église fidèle au pouvoir impérial de Constantinople.
Et d'ailleurs, très bizarre, mais abandonné son nom de melkite, puisque seule la branche catholique le conserve.
Oui, très, très curieusement.
Jamais très... trop compris pourquoi.
Ouais, je sais pas non plus. et donc Jacques Baradaï est donné par les auteurs jacobites comme le premier traducteur en syriaque de la liturgie de Saint-Jacques. Ceci dit, à mon avis, il a peut-être refait une traduction à partir du grec, mais on a des indices qui montrent que on devait utiliser cette liturgie aussi en syriaque avant le 6e siècle. On a une pèlerine fabuleuse, son nom est un peu curieux, elle s'appelle Égérie. C'est une dame espagnole, semble-t-il, d'un certain rang, avec, semble-t-il, une vocation déjà d'ascète ou de moniale avant l'heure, et qui fait un pèlerinage à Jérusalem dans la seconde partie du 4e siècle. Et Égérie décrit de façon très intéressante la liturgie célébrée à Jérusalem, et elle rapporte que dans tous les offices il y a l'évêque qui chante la liturgie en grec, et à côté il y a un prêtre qui redouble les prières en syriaque, en fait. Donc il y a une traduction simultanée en quelque chose, parce que on avait déjà ce bilinguisme dans les communautés chrétiennes de Syrie et de Palestine, qui se retrouve encore aujourd'hui, puisqu'on a encore ces communautés syriaques araméennes, et puis ces communautés grecques qui utilisent encore le grec, bon, souvent l'arabe aussi, mais un peu le grec de temps en temps, qui en tout cas relève d'une tradition grecque, voilà.
Alors déjà, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, libre journal de la plus grande France, de Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir, dire comme d'habitude, Henri de Villiers, maître de chapelle à Saint-Eugène et à la Très Sainte Trinité, la paroisse russe catholique. Et donc nous sommes en train de terminer notre découverte de l'église, des églises syriaques, et notamment de la liturgie et de la musique en vigueur dans les églises syriaques. Et nous parlons de l'anaphore, c'est-à-dire le canon, la prière eucharistique de Saint-Jacques, qui est un peu la principale, en tout cas celle en usage pour les grandes fêtes dans l'église syriaque.
Alors justement, je parlais de cette traduction en syriaque de l'anaphore de Saint-Jacques. La version qu'on a encore en usage aujourd'hui dérive d'une deuxième traduction faite officiellement par un évêque d'Édesse à la fin du 7e siècle, Jacques d'Édex. Le texte de cette liturgie a été augmenté, notamment dans les interventions du diacre au 9e, 10e siècle par un évêque de Mossoul et surtout au 12e siècle par le saint Thomas d'Aquin syriaque, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire Denis Barsalibi. Donc elle a commencé à prendre une proportion sans doute trop longue, ce qui fait qu'au 13e siècle, Bar Ebraeus, qui est aussi un célèbre docteur de l'église syriaque, l'a abrégé, ce qui fait qu'on a deux formes de la liturgie de Saint-Jacques, une version longue et une version brève en fait. Donc j'ai essayé de refaire une traduction. Alors j'ai pas une connaissance approfondie du syriaque, mais on a une traduction latine faite sur la version longue, publiée par Renaudot, le célèbre abbé Renaudot, qui était notre premier journaliste en France, qui a publié cette version de la liturgie de Saint-Jacques en 1715. Vous voyez pourquoi Renaudot l'a publié, entre autres parce que la liturgie de Saint-Jacques a été au XVIe siècle utilisée dans les controverses avec les protestants. On estimait qu'elle remontait véritablement à Saint-Jacques, frère du Seigneur, et c'était un argument massu contre les protestants qui niaient la présence réelle, parce qu'évidemment la doctrine et la foi professée par cette anaphore eucharistique est tout à fait traditionnelle et insiste évidemment sur la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin. Et elle a été attaquée par les protestants, mais trois cardinaux du XVIIe siècle, le très célèbre, le cardinal Baronius, et puis Saint Robert Bellarmine surtout, et puis le cardinal Duperron, ont insisté sur l'authenticité et l'antiquité de cette liturgie. Alors, l'authenticité, on pourra toujours la discuter. Il est évident, bien sûr, que tous les termes employés par l'anaphore ne remontent pas à Saint-Jacques, frère du Seigneur, mais il est légitime de penser que l'ordonnance générale dérive de la pratique de l'Église de Jérusalem des 1er et 2e siècles, et que sans doute des formules qui remontent à une très haute antiquité ont persisté dans ce texte. Il est probable que celui qui l'a fixé, qui l'a étendu, qui lui a donné sa forme à peu près actuelle, est le grand évêque de Jérusalem au 4e siècle, Saint Cyrille de Jérusalem. Alors il y a plusieurs thèses sur la diffusion, parce que l'origine de la liturgie à Jérusalem est assez bien marquée par le texte lui-même, parce qu'on parle on y parle de la Sainte Église de Dieu qui est à Sion. Le rôle de la vraie croix aussi a une grande importance. Elle a été redécouverte par Sainte Hélène au 4e siècle à Jérusalem. Il y a des petites allusions dans le texte qui font sans doute référence à ce grand événement. Donc, même si toutes les formules ne remontent évidemment pas à Saint-Jacques lui-même, mais on a là le témoignage d'une antique prière de la communauté de Jérusalem qui, même s'il n'a pas eu un très grand rôle tout de suite dans les premiers temps du christianisme, avait quand même cette immense prestige d'être la première communauté chrétienne. La ville a été dispersée ensuite lorsque Titus a rasé Jérusalem. Donc c'est pour ça aussi qu'Antioche a eu un rôle plus important tout de suite. Mais le prestige de Jérusalem n'a pas cessé de croître à partir de Saint-Cyrille au 4e siècle.
Alors, est-ce qu'on va rentrer dans l'anaphore proprement dite après cette introduction?
Non, mais j'ai encore quelques points dans l'introduction qui me paraissent importants.
Parce que nous bouillonnons de oui. Patience.
Vous savez que Saint Jean Chrysostome a été évêque d'Antioche, et quand on analyse les les homélies qu'il fait lors de son pontificat à Antioche,
il n'y avait pas encore le titre de patriarche.
Il n'y avait pas encore le titre de patriarche, mais il était métropolitain d'Antioche, et Antioche étant la métropole de toute la province de l'Orient, contrôlait des zones énormes, ecclésialement parlant. Saint Jean Chrysostome, manifestement, ne connaît pas encore l'usage de la liturgie de Saint Jacques. Si on analyse les quelques traces dans ces homélies qui sont des citations de passages de la liturgie, et le changement a dû intervenir juste après, vers les années 430, il semblerait qu'on ait mixé en fait l'anaphore de Saint Jacques avec ce qui était pratiqué à Antioche, et qu'on a fait une synthèse des deux, en fait. C'est ça que nous avons actuellement. Et c'est une assez belle réussite. Cette liturgie a fasciné beaucoup les liturgistes au 19e siècle, les liturgistes anglicans en particulier. Certaines communautés anglicanes ont voulu l'utiliser. On a même, les anglicans ont même préconisé qu'elle soit la liturgie obligatoire pour les anglicans de l'Inde. Les catholiques l'ont aussi découverte au XXe siècle, et elle a excité beaucoup les esprits des liturgistes du mouvement liturgique. Et en fait, elle a influencé le travail de la nouvelle liturgie issue du Concile Vatican II. On prétend que la quatrième prière eucharistique serait inspirée de la liturgie de Saint-Jacques. C'est une inspiration quand même qui reste très très lointaine.
La version courte, alors.
Peut-être, oui. Mais en tout cas, Louis Bouillet, par exemple, qui est un acteur fondamental du mouvement liturgique, a estimé beaucoup, tenait en grande estime cette vénérable et antique anaphore eucharistique. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un texte assez primitif, même plutôt très primitif, mais qui a déjà une doctrine très bien exposée, notamment sur la Sainte Trinité. Le rôle de chaque personne divine est bien affirmé. Malgré tout, il reste quelques petites maladresses. Notamment l'anaphore s'adresse au Père, et puis hop, tout d'un coup on passe au Christ sans transition, juste après les paroles du récit de l'institution dans l'anamnèse, puis on revient au Père immédiatement. C'est aussi une marque, semble-t-il, d'antiquité, parce que c'est peut-être une petite faiblesse, justement, qui trahit une origine ancienne. Un travail plus récent aurait été sans doute plus poli, plus rigoureux, avec une approche peut-être plus scientifique de la prière, en tout cas. Que dire encore, c'est que cette anaphore a eu une extension très importante, puisqu'elle a été non seulement utilisée en Syrie et en Palestine par les communautés qui dépendaient des patriarcats historiques de Jérusalem et d'Antioche, et dans tout le ressort de leur patriarcat, et du coup également en Géorgie et en Arménie, où elle a été employée. D'ailleurs, on vient de redécouvrir une centaine de manuscrits géorgiens.
Dans les églises arméniennes.
Oui. Et la liturgie arménienne dérive en fait de la liturgie de Saint-Jacques. La liturgie de Saint-Jacques se retrouve aussi en Éthiopie, ce qui n'est pas une grande surprise, car on le verra sans doute lorsqu'on attaquera ce magnifique pays.
Bientôt.
Eh bien, l'Éthiopie a été...
Demain, comme on dit, au Proche-Orient.
L'Éthiopie très extensive. L'Éthiopie a été évangélisée au 4e siècle par deux Syriens, Frumence et Edèse, et Saint Frumence était d'origine syrienne. Et ensuite, au 6e siècle, il y a eu 13 saints moines qui sont en grande vénération encore dans le peuple éthiopien actuellement, qu'on appelle les saints syriens, amusant jeu de mots en français, et ces 13 saints syriens ont...
Ils n'ont pas de casoar.
Ils ont sans casoar, ont évangélisé en profondeur les campagnes éthiopiennes. Et donc, le point de contact était établi avec la Syrie, et c'est tout à fait logique de retrouver cette anaphore de Saint-Jacques parmi les anaphores éthiopiennes.
Et par contre, ça n'a pas rayonné dans le reste de l'Afrique, dans le patriarcat d'Alexandrie.
D'Alexandrie, non, même si on note quand même que, comme on verra, là, puisqu'on attaquera la liturgie copte par la suite, une des anaphores les plus anciennes de la liturgie copte, l'anaphore dite de Saint-Basile, mais qui n'a rien à voir avec la Saint-Basile grecque, est très proche de l'anaphore de Saint-Jacques. Donc il y a encore sans doute des points de contact difficiles à établir puisque ça remonte à des époques très anciennes de la chrétienté. Mais au 2e, 3e siècle, l'église d'Alexandrie avait on peut pas dire qu'elle avait étendu sa juridiction, mais en tout cas, elle avait une grande proximité intellectuelle avec les évêques de Jérusalem, Origène, par exemple, le célèbre docteur de l'église d'Alexandrie, de l'école d'Alexandrie, avait enseigné en Palestine également.
Mais alors donc, cette liturgie qui était utilisée, donc Antioche et Jérusalem, donc bizarrement, alors même que Alexandrie était assez proche, une grande proximité avec Jérusalem, n'a pas été utilisé par les Grecs en Alexandrie.
À Alexandrie, non. Non, non. Ils avaient leur propre liturgie, on reviendra dessus. C'est très difficile de savoir ce que l'église melkite d'Alexandrie utilisait avant, autrefois. Elle devait avoir aussi sans doute les versions grecques des liturgies actuellement en usage chez les Coptes, mais... là encore, comme en Syrie, la centralisation de Constantinople a imposé la liturgie de Constantinople dans ces contrées.
Bien.
On va peut-être attaquer le texte. Alors, je pense que ça peut être intéressant de le lire. Juste une chose sur la liturgie de Saint-Jacques en général, elle a un regain de ferveur également dans l'église russe actuelle qui ne la connaissait pas et en fait qui a fait une première traduction au XXe siècle par l'église russe hors frontières qui est en train de se diffuser et le séminaire russe d'Épinay-sous-Sénart à côté de Paris a édité une très intéressante version slavone française de la liturgie de Saint-Jacques, en fait.
Voilà. Donc c'est un séminaire patriarcat de Moscou.
Du patriarcat de Moscou, oui.
Mais il ne l'utilise pas.
Ah si ? Oui, bah, de façon épisodique, trois fois par an en principe. Mais c'est une des liturgies théoriquement autorisées dans les églises orthodoxes grecques ou russes.
Byzantines.
Oui, byzantines.
D'accord. Alors, vous allez nous lire le texte.
Oui, puis on va l'écouter aussi. On fera peut-être aussi de l'écoute et de la traduction à peu près simultanée. En fait, l'anaphore commence avec la fin de l'offertoire chez les Syriaques. Hein. Là, on va suivre bien sûr la version syriaque. On laisse de côté la version grecque qui organise les choses de façon différente. Le texte se sépare parfois de façon assez importante. Donc là, chez les Syriaques, en fait, les 81 anaphores vont toutes commencer par les prières qui entourent le baiser de paix. Le baiser de paix est donné à la fin de l'offertoire, juste avant l'anaphore. Alors, c'est quoi ce baiser de paix ?
Bien sûr, une préface.
Oui. Juste avant la préface, en fait, qui est l'élément le plus universel qu'on retrouve dans toutes les anaphores d'Orient et d'Occident, systématiquement, et sans doute le plus ancien et le plus vénérable, en fait. La pratique du baiser de paix remonte aux apôtres, puisque saint Paul disait aux Corinthiens déjà « Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser ». Et saint Justin, au second siècle, dans son apologie, où il expose à l'empereur comment les chrétiens prient, parle de ce baiser que se donnent les fidèles au cours de la liturgie. Alors pourquoi sa place à la fin de l'offertoire et juste avant la grande anaphore eucharistique? C'est une référence au chapitre 5 de saint Matthieu. Si donc lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton don devant l'autel et va te réconcilier d'abord avec ton frère, puis tu reviendras offrir ton don. Donc c'est voilà, cette idée.
Sachant que dans l'Église latine, voilà, le baiser de paix est après le canon, l'anaphore.
Oui, oui. Et toutes les liturgies d'Orient et d'Occident ont toujours placé le baiser de paix juste avant le canon, juste avant l'anaphore, sauf le rite romain et le rite africain, qui était le rite suivi par l'ancienne Afrique chrétienne de saint Cyprien de Carthage et de saint Augustin d'Hippone et de d'autres nombreux pères, ou qui faisaient comme Rome, qui avait cet usage différent de mettre le baiser de paix juste avant la communion et après le canon. En le justifiant d'une façon différente, il ne reprenait pas cette idée de réconciliation avec les frères qui est exprimée par la plupart des liturgies, mais qui disait que la paix venait du Christ, en fait, qui nous donne la paix. C'est une autre idée, c'est le Christ ressuscité qui apparaît à ses apôtres et qui les salue en leur disant « la paix soit avec vous ». Et donc, on reçoit la paix du corps du Christ, et dans les liturgies africaines et romaines, c'est le prêtre qui, quelque part, baise les saintes espèces et puis reçoit ce baiser et va le transmettre au diacre qui le transmet au cœur, et ainsi de suite. Donc, on reçoit le salut du Christ, en quelque sorte. Et c'est tout aussi beau, et c'est tout aussi vénérable et ancien. Donc il ne faut pas, comme certains dans l'Église catholique romaine actuelle, cherchent à changer la place du baiser de paix. Ce serait une erreur, à mon avis. Il faut aussi garder cette petite différence qui exprime aussi autre chose.
Oui, bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que, bien sûr, la structure est la même, la foi est pratiquement la même. Mais ensuite, chaque tradition, chaque région géographique a son histoire et ses traditions avec leur propre légitimité. L'étude d'autres traditions n'a pas pour but de délégitimer sa propre tradition.
Au contraire, je pense que la comparaison des liturgies est surtout pour mieux comprendre notre propre tradition, en fait. C'est ça, l'enrichissement de découvrir ce que font les autres églises, c'est qu'on peut mieux comprendre en profondeur ce que nous-mêmes nous faisons, et ça permet d'éclairer avec des jours nouveaux ce que nous faisons depuis des siècles, en fait. Hein.
Donc, il ne faut pas tomber dans la tentation bien connue
de mélanger les rites.
Oui, ou de penser que tout était toujours mieux ailleurs, et donc oui, de vouloir aussi, sans cesse imiter ce qui se fait ailleurs en dévalorisant ce qu'on a toujours fait.
Tout à fait.
Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie.
Alors, on va enfin lire cette très belle anaphore. C'est un des sommets de la liturgie universelle. Alors, le célébrant chante une prière à les mains croisées, et cette prière précède en fait le baiser de paix. Dieu de tout et Seigneur, même si nous en sommes indignes, rends-nous dignes du salut, afin que sans malice et unis par le lien de la charité, nous nous saluons les uns les autres d'un saint et divin baiser. Nous te rendons gloire et action de grâce, à toi ainsi qu'à ton Fils unique et à ton très saint, bon et adorable donateur de vie et consubstantiel esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen.
Alors le baiser de paix dans l'Église syriaque, c'est un ministre qui vient recevoir la paix des mains du célébrant et qui baisse sa main, et ensuite qui transmet le baiser de paix en touchant les mains des autres ministres du corps, et ensuite c'est transmis aux fidèles également. Donc comme dans toutes les liturgies qui ont conservé l'usage du baiser de paix, c'est pas une poignée de main, enfin c'est pas le geste profane qui est utilisé pour se saluer normalement. Enfin, c'est bon. Il est probable qu'à l'origine c'était un vrai baiser, mais en Orient on est souvent passé à autre chose. Mais en tout cas, c'est le geste qui est retenu n'est pas l'usage profane.
En tout cas, ce qu'on voit actuellement, alors comme il y a pas de, comme on est à la radio, bien sûr,
oui,
le d'imaginer, mais c'est les la personne qui transmet arrive avec les deux mains et donc les entrouvre et donc l'interlocuteur
place deux mains jointes
Au milieu et ça se transmet comme ça.
Ça rappelle l'hommage, c'est peut-être une influence des croisades, hein, c'est peut-être l'hommage qu'on faisait en Occident au Moyen Âge, mais en tout cas c'est pas la façon dont on se salue dans la rue, dont on salue son boucher ou ça.
Et d'ailleurs on voit un geste de piété que je trouve assez émouvant, c'est de voir souvent les fidèles, après avoir reçu la paix ainsi, s'en imprègnent en se mettant les mains sur le visage, sur le corps, pour se répandre la paix qu'ils viennent de recevoir de l'autel.
On avait aussi des très beaux usages en Occident. Alors, on note qu'en Occident, le baiser de paix sur la bouche a été pratiqué, semble-t-il, jusqu'au XVIe siècle. Et du reste, du temps des pères de l'Église, on séparait les hommes et les femmes dans les églises à cause de ça. Et on avait donc une moitié d'église pour les femmes et une moitié pour les hommes. Alors chez les mots arabes, par exemple, on transmet toujours la paix, souvent avec l'instrument de paix, qui est une petite plaque représentant le Christ et qu'on présente à baiser aux fidèles. Actuellement, dans le rite romain traditionnel, le baiser de paix ne se transmet qu'aux membres du cœur, en fait, ne va pas jusqu'à la nef. Mais on pourrait imaginer une disposition...
Mais pas sur la bouche, par la collade.
Oui, par la collade. Tout à fait. Et là aussi de façon très rituelle, en fait, et pas de façon profane. Alors, on va écouter une première piste. Je vais essayer de faire la traduction en même temps. C'est un dialogue entre le peuple, le célébrant, le diacre, qui va entourer donc cette transmission de la paix.
Oui. Il faut mettre les casques pour pouvoir traduire en même temps.
Barek Mars, c'est-à-dire béni Seigneur, l'équivalent du latin Iubi Domine Benedicere. La paix soit avec sur vous tous, dit le célébrant. Le diacre chante « Donnons-nous la paix les uns les autres, chacun à son voisin, par un saint et divin baiser, dans l'amour de notre Seigneur et Dieu. » Dieu le Père, qui en raison de ton grand amour envers les hommes a envoyé ton Fils dans le monde pour ramener la brebis qui s'était perdue, ne rejette pas, ô mon Seigneur, l'office de ce sacrifice non sanglant, car nous ne comptons point sur notre droiture, mais sur ta miséricorde. Ne permets pas que ce mystère qui a été institué pour notre salut soit pour notre condamnation, mais pour la rémission de nos péchés, et pour l'action de grâce à toi et à ton Fils unique engendré, et à ton très saint, bon, adorable, donateur de vie et consubstantiel esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le bruit qu'on entend est celui des des ripidia, des sortes d'éventails munis de clochettes qui sont agités par les servants de la messe aux moments les plus importants. Alors là, c'est le dialogue de la préface, comme dans toutes les liturgies, avec substantiellement les mêmes réponses. L'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils unique engendré, et la communion et la descente du Saint-Esprit soient toujours sur vous tous, mes frères, et avec ton esprit. Alors, c'est un enfant qui a répondu, ça pourrait être le peuple également. Élevons nos intelligences, nos pensées et nos cœurs à cette heure vers là où le Christ trône à la dextre de Dieu le Père. C'est le sursum corda de la liturgie latine. Et on répond, ils sont auprès du Seigneur Dieu. Là on entend le Sanctus. Kadesh, Kadesh, Kadesh. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le ciel et la terre sont remplis de ses gloires. Hosanna dans les hauteurs. Béni soit celui qui est venu et qui viendra au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauteurs.
Il n'y a pas le dernier dialogue avant la préface ?
Si, 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 si. Mais je reviendrai ensuite.
Vous écoutez Radio Courtoisie et nous venons d'entendre l'anaphore de Saint-Jacques.
Le début, oui, les prières de la paix, le dialogue de la préface et la préface elle-même. Alors une partie de la préface est dite à voix basse par le célébrant. Je vais revenir sur le dialogue de la préface parce que on voit le parallélisme avec toutes les autres liturgies. Donc, le diacre invite à se tenir bien dans la crainte. On a également ça dans la liturgie byzantine. Puis le célébrant. Alors, dans le rite latin, c'est tout simplement Dominus Vobiscum, le Seigneur soit avec vous. On reconnaît là l'esprit de synthèse latine. Mais. c'est exactement la même chose. L'amour de Dieu le Père, la grâce de son Fils unique engendré et la communion et la descente du Saint-Esprit soient toujours sur vous tous, mes frères. Le peuple répond, et avec ton esprit, et cum spiritu tuo. Sursum corda vient ensuite dans la liturgie romaine, élevons nos cœurs. Là, le texte syriaque dit, élevons nos intelligences, nos pensées et nos cœurs à cette heure, vers là où le Christ trône à la dextre de Dieu le Père. Le peuple répond, ils sont auprès du Seigneur Dieu, l'équivalent de notre Habemus ad Dominum. Le célébrant continue la troisième partie du dialogue. Rendons grâce au Seigneur dans la crainte. Gratias agimus domino Deo nostro. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu dans la liturgie romaine. Le peuple répond, cela est digne et juste, exactement comme en latin, dignum et justum est. La préface commence toujours, comme dans toutes les liturgies, par cette exclamation, vraiment, il est digne et juste de te rendre grâce, de prier, de louer le Créateur de tout l'univers. qui est dite à voix basse, et ensuite la fin de la préface, qui est très courte, hein, contrairement à des anaphores plus tardives. La fin de la préface est tout à fait dans un contexte judéo-chrétien qui fait fortement penser à Jérusalem déjà. C'est lui que les puissances célestes corporelles et incorporelles glorifient. Le soleil, la lune et toutes les étoiles, la terre, les mers et tous les premiers-nés inscrits dans la Jérusalem céleste, les anges et les archanges, les vertus célestes, les principautés, les trônes, les dominations, les puissances, les chérubins aux innombrables yeux et les séraphins aux six ailes, qui se couvrant leurs faces et leurs pieds, volent l'un à l'autre en chantant l'hymne trois fois sainte, criant et disant. Et le peuple répond exactement le Sanctus à des petite variante près, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le ciel et la terre sont remplis de ses gloires, Hosanna dans les hauteurs, béni soit celui qui est venu et qui viendra au nom du Seigneur, Hosanna dans les hauteurs.
On voit que les parentés sont très fortes.
Sont très fortes, bien sûr, comme dans toute liturgie. L'originalité peut-être de cette préface, c'est l'association du ciel et de la terre. D'habitude, la préface nous élève vers les hauteurs célestes, justement, et convoque les puissances angéliques nombreuses pour que nous chantions avec les anges Saint, Saint, Saint. Mais là, il y a une association très intéressante des éléments de la nature avec les éléments de la création invisible. On convoque le soleil, la lune et toutes les étoiles, la terre, les mers. On parle de la Jérusalem céleste et on associe ça avec le concert des anges et des archanges, des séraphins et des chérubins. C'est une idée qui n'a, à mon sens, pas été reprise dans d'autres anaphores eucharistiques chrétiennes, en fait. C'est vraiment une originalité. Voilà.
Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la plus grande France, dirigé par Benjamin Blanchard, et je reçois ce soir Henri de Villiers, maître de chapelle à Saint-Eugène et à la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité. Et nous développons la liturgie syriaque. Nous sommes rentrés pour cette troisième émission consacrée à la liturgie syriaque dans le cœur des saints mystères avec l'anaphore, hein, donc le canon, la prière eucharistique.
On a écouté un prêtre syriaque qui célébrait en Allemagne, Abouna Aziz Khan. On va écouter à nouveau le Sanctus, Kaddish, 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 chanté cette fois-ci par la paroisse Saint-Georges syriaque orthodoxe de Bruxelles. Voilà, on entend toujours au Sanctus ce bruit qui est un peu étrange, des petites clochettes qui sont attachées au flabelli, au ripidia, diraient les Grecs, ou au marvato, c'est le terme syriaque, les marvato. Donc à l'origine, c'était des éventails avec des plumes d'autruche. On note leur présence en Syrie déjà au IVe siècle. Et c'était un aspect très pratique, c'était d'éloigner les petits insectes autour de la coupe qui allait devenir le sang du Seigneur.
Donc ça correspond dans le rite romain.
Dans le rite romain, on avait des flabelli, on les a utilisés jusqu'au XVIe siècle un peu partout en Occident, puis l'usage a disparu. On en a encore de très beaux dans certains musées. Les derniers à avoir été utilisés sont ceux du pape, et également un autour des reliques de Saint-Liboire en Allemagne. Et puis à Malte également, il y a des processions toujours aujourd'hui avec des flabellis, et autour du patriarche de Lisbonne également qui avait ses flabellis.
Mais contre les insectes?
Oui, c'était à l'origine aussi contre les insectes. Ensuite, c'est devenu une marque d'honneur, soit pour l'Eucharistie, soit pour l'Évangile, soit pour une relique, soit pour un personnage qui peut être le pape ou un évêque.
Alors, pour que les auditeurs de Radio Courtoisie voient à quoi se fassent une idée de quoi ça ressemble, donc c'est une grande perche
oui.
Avec un disque.
Un disque.
Et des grelots tout autour du disque. Et donc, il y a deux servants, de part et d'autre du célébrant, qui tendent ses perches et qui est au-dessus de l'autel,
en direction
et
de l'autel.
Qui les secoue.
Et ce bruit de clochette, en fait, finalement, joue la même fonction également que les clochettes dans le rite latin, qui sont agitées par les acolytes. Il s'agit aussi d'avertir les fidèles aux moments les plus importants de la liturgie. Et attention, il se passe quelque chose, c'est ça que ça veut dire.
Voilà. En fait, et sinon, elles sont posées sur l'autel.
Oui.
On enlève le manche et elles sont posées sur l'autel de part et d'autre.
De part et d'autre. Juste après le Sanctus arrive le post-Sanctus, comme disent les liturgistes, et voici celui de la liturgie de Saint-Jacques. Le prêtre le dit en silence, certaines prières importantes sont dites en silence, d'autres sont chantées, en tout cas le silence du canon est quelque chose qui est pratiqué en Orient de façon très ancienne également, comme en Occident. Vraiment tu es saint et auteur de la sainteté, ô roi des mondes, et saint est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et saint est de même ton Esprit Saint qui scrute tout ce qui est secret. Tu créas l'homme à partir de la terre et le plaça dans le paradis, et lorsqu'il transgressa ton commandement, tu ne l'as pas laissé tomber, mais tu l'as guidé par les prophètes. Et quand fut venue la plénitude des temps, tu as envoyé dans le monde ton Fils unique engendré, qui, lorsqu'il eut pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, restera ton image qui était altérée. Le célébrant prend alors l'hostie sur la patène avec sa main droite et la pose sur sa main gauche. Et il lève les yeux au ciel pour commencer le récit de l'institution de l'Eucharistie. Quand lui, qui est sans péché, fut prêt à accepter la mort volontaire pour nous pécheurs, il prit du pain dans ses mains saintes et lorsqu'il eut rendu grâce, il le bénit et le sanctifia et le rompit et le donna à ses saints disciples en disant « Recevez, mangez-en. Ceci est mon corps qui, pour vous et pour beaucoup, est brisé et donné pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle. » Et le peuple répond « Amen. » Le célébrant prend alors le calice dans ses deux mains et puis le tient dans la main gauche. Il fait des signes de croix sur lui. Il va poser son index droit sur le bord du calice pour chanter la consécration du vin. De même, il prit la coupe et quand il eut rendu grâce, il le bénit et le sanctifia et le donna à ses disciples et dit « Recevez, buvez-en, vous tous. Ceci est mon sang qui pour vous et pour beaucoup est répandu et donné pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle. » Et le peuple répond « Amen. » On va écouter le chant des paroles de la consécration par un patriarche orthodoxe d'Antioche, syriaque, mort Ignace 39 Jacques III, qui a été patriarche et qui est mort en 1980.
Donc
c'est un enregistrement un peu historique.
L'antéprécédent patriarche.
Yeah.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Voilà, nous venons d'écouter le récit de l'institution de l'Eucharistie, la consécration, en tout cas pour les catholiques, c'est la consécration. Car pour les orientaux, qu'ils soient grecs, byzantins ou syriaques, on semble penser plutôt que la consécration a lieu après, lorsqu'on on demande au Saint-Esprit de descendre sur les saints dons. C'est une caractéristique forte de la tradition d'Antioche, en fait, dès les origines.
Et je ne me souviens plus, je reviens un peu en arrière dans plusieurs émissions. Est-ce que chez les Assyriens,
oui.
À quel moment est la consécration?
Alors, il y a trois anaphores chez les Assyriens et chez les Chaldéens. L'anaphore d'Adaï et Marie, tout aussi vénérable et sans doute encore plus ancienne que l'anaphore de Saint-Jacques, mais qui, originairement, semble-t-il, n'a jamais eu de récit de l'institution. Elle a l'épiclèse, et encore, on se demande si l'épiclèse n'est pas un ajout postérieur qui a dû se faire au
deuxième, troisième
siècle. Et donc
là, la consécration
se fait
avec l'appel au Saint-Esprit.
Oui, tout à fait. Et le sens général des prières, en fait, d'action de grâce. Mais les deux autres anaphores, celles de Théodore de Maupuest et de Nestorius, sont tout à fait régulières, en ce sens qu'elles ont à la fois le récit de l'institution et la descente du Saint-Esprit, ensuite l'épiclèse.
Voilà, parenthèse refermée.
Du reste, ce serait très intéressant de mettre en perspective l'anaphore de Saint-Jacques et celle de d'Adaï et Marie, et il y a quand même des points de contact assez importants, ce qui n'est pas une surprise non plus, puisque c'était quand même tout ça dans le ressort du patriarcat d'Antioche primitif, en fait. Alors après ces paroles, donc le célébrant va accomplir des gestes un peu mystérieux. Il va prendre un petit coussin, le gomuro, qu'il va déplacer. Il va poser la cuillère qui va servir à la communion dessus. Puis il va les élever tous les deux. Et chez les commentateurs et pères syriaques, cette élévation de cette cuillère sur ce coussin, en fait, est là pour signifier la seconde venue du Seigneur. Il va placer aussi une éponge qui va servir aux purifications. Il va changer sa place sur l'autel et va dire « Faites ceci en mémoire de moi quand vous partagerez ce sacrement, commémorant ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. » Et là, le peuple répond quelque chose qui va nous sembler très familier parce que ça a été repris par les liturgistes qui ont fabriqué la nouvelle liturgie romaine. Le peuple répond « Ta mort, Seigneur, nous la commémorons, ta résurrection, nous la confessons et ta seconde venue, nous l'attendons. Que ta miséricorde soit sur nous tous. » Voilà. C'est sans doute la chose la plus évidente reprise de la liturgie de Saint-Jacques. Sans doute que Louis Bouilhet voulait davantage son acclimatation dans un contexte de nouvelle liturgie romaine, mais c'est à peu près tout ce qui a été conservé. Ensuite, l'ananès continue et là, changement un peu abrupt, on s'adresse au Christ sans transition. Le célébrant chante les mains en croix. « Tandis que nous commémorons, Seigneur, ta mort et ta résurrection le troisième jour, ton ascension au ciel, ton intronisation à la dextre de Dieu le Père, et ta seconde venue où tu jugeras le monde avec justice et récompenseras quiconque selon ses actes, pour cette raison, nous t'offrons ce sacrifice non sanglant, afin que tu ne nous traites pas selon nos dettes, ni ne nous récompenses selon nos péchés, mais selon tes abondantes miséricordes, efface les péchés de tes serviteurs. Pour cela, ton peuple et ton héritage font monter leurs supplications vers toi, et à travers toi à ton Père en disant, et là le peuple répond, « Aie pitié de nous, Dieu Père Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te bénissons, nous te prions et nous t'adorons. Ô Seigneur notre Dieu, aie compassion et pitié de nous, ô seul bon. » Le célébrant étend ses mains et lève les yeux vers le ciel à nouveau et dit en silence, « Nous aussi, Seigneur, tes serviteurs faibles et pécheurs, t'offrons l'action de grâce et reconnaissons ton amour bienveillant sur tous et envers tous. » Le peuple continue, « Nous te glorifions, nous te bénissons, nous te prions, ô Seigneur Dieu, et nous t'adorons pour ta miséricorde et pitié de nous. » qui est une réponse qui est assez semblable à celle de la liturgie byzantine à cet endroit, au moment de l'épiclèse. Le diacre dit ensuite « Barek mor », c'est-à-dire « béni maître », on demande au prêtre de bénir en quelque sorte. C'est l'équivalent strict de l'expression latine « iube domine benedicere », « veuille maître bénir ». Et le diacre chante quelque chose qui est très proche aussi dans le texte et assez semblable à ce que dit le diacre assyro-chaldéen au même endroit. « Combien terrible est cette heure et combien redoutable est ce moment, mes bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit des plus sublimes hauteurs prend ses ailes et descend et plane et repose sur cette Eucharistie ici présente et la sanctifie. Soyez calmes et sereins, tout en restant debout et en priant. » Le peuple répond « Que la paix soit avec nous et la tranquillité pour nous tous. » Et pendant ce chant, en fait, le célébrant va agiter ses mains sur les mystères en mimant en quelque sorte le vol de la colombe du Saint-Esprit et va s'incliner et dire en secret, toujours l'idée du silence du canon aux moments les plus importants. Et voici le texte de l'épiclèse de la liturgie de Saint-Jacques. « Aie pitié de nous, Dieu le Père, et envoie sur ses offrandes ton Saint-Esprit, Seigneur, égal à toi. » et au Fils, dans la domination, le règne et la substance éternelle. Lui qui a parlé par ton Ancien et ton Nouveau Testament, et qui descendit sous la forme d'une colombe sur notre Seigneur Jésus-Christ dans le fleuve du Jourdain, et sous la forme de langue de feu sur les apôtres au Cénacle. » Le célébrant interrompt sa prière pour chanter une exclamation un peu étrange, puisqu'il va dire « réponds-moi Seigneur, ô seul bon, aie compassion et aie pitié de moi. » Et le peuple va chanter, on va l'écouter, prêtez l'oreille, vous allez l'entendre, c'est assez frappant. « Kyrie eleison », alors à la syriaque, c'est-à-dire « Kyrie eleison », trois fois. Et le célébrant va finir... l'épiclèse, il va étendre sa main gauche sur les saints dons, il va agiter sa main droite sur le corps en chantant que par son inhabitation il, c'est-à-dire le Saint-Esprit, fasse de ce pain le corps qui donne la vie, le corps qui donne le salut, le corps du Christ notre Dieu. » Et le peuple répond « Amen ». Il va agiter de même cette fois sa main droite au-dessus du calice et va chanter, et qu'il perfectionne cette coupe en la changeant en sang de la nouvelle alliance, en sang qui donne le salut, en sang du Christ notre Dieu. Et le peuple répond « Amen ». Et enfin, le canon à strictement parler va se terminer avec une ecphonie finale. Enfin, le prêtre va chanter en étendant ses mains, afin qu'il puisse sanctifier les âmes et les corps de ceux qui en prendront part, afin qu'il puisse porter le fruit de bonnes actions pour la confirmation de la Sainte Église qui est fondée sur la pierre de la foi et qui est invincible pour les portes des enfers. Délivre-la jusqu'à la fin des offenses des hérétiques, afin qu'elle puisse glorifier et louer toi et ton Fils unique engendré et ton Saint-Esprit, tout saint, bon, adorable et donateur de vie, qui est une unique substance avec toi, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. » Et le peuple répond « Amen ». On va écouter maintenant l'épiclèse de la liturgie de Saint-Jacques en syriaque, dans la langue du Christ, toujours avec une communauté syriaque en Allemagne.
Donc vous écoutez Radio Courtoisie, on arrive, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie d'émission, et donc vous venez d'entendre l'anaphore de Saint-Jacques, donc le cœur de la messe dans l'anaphore principale, c'est-à-dire la prière eucharistique principale dans la liturgie syriaque.
Et juste après cette épiclèse, l'anaphore continue, même si techniquement l'amen qu'on vient de faire, c'est l'amen de fin du canon, si on compare avec le rite romain, avec des diptyques. Alors, qu'est-ce que c'est que les diptyques? C'est une pratique très ancienne dans l'Église, qui s'est épanouie au IVe siècle, au moment de la paix de l'Église, mais qui devait déjà préexister du temps des persécutions. C'est-à-dire qu'on offre à Dieu, le Père, le sacrifice non sanglant du Christ, et on recommande les vivants et les morts, et on fait mémoire des saints qui nous ont précédés. Pourquoi diptyque ? Parce qu'à l'origine, les diacres utiliser des tablettes en deux parties, un genre de petit cahier qui se refermait, deux tablettes, souvent en ivoire. Nos musées, on conserve des spécimens absolument extraordinaires. Ce sont des travaux artistiques de grande valeur. Vous pouvez aller au musée du Louvre et vous en verrez, par exemple, de très très belles, très anciennes. Et ces diptyques étaient des tablettes. D'un côté, la face extérieure était en ivoire, et sur la face intérieure, on mettait surtout un revêtement de cire, et les diacres écrivaient les noms, les prénoms des fidèles morts ou vivants pour lesquels on offrait le sacrifice, en fait. Donc c'est encore continué dans notre église latine actuelle où on va faire des offrandes pour dire une messe pour un tel ou un tel, un vivant ou un mort. Ça existe toujours chez les Byzantins où on va présenter des petits pains, des prosphores avec un petit papier sur lesquels on va indiquer les prénoms de ceux pour qui on veut prier.
Si vous venez à la paroisse russe catholique, voilà, de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, le dimanche à 9h15, vous verrez à l'entrée, il y a des petits papiers.
Et
vous pouvez marquer.
Et les diptyques étaient à l'origine, dans toutes les liturgies, ces noms pour lesquels on priait, pour lesquels on offrait le Saint-Sacrifice de la Messe. Les noms de ces fidèles étaient proclamé par le diacre. Ça a été conservé dans toutes les liturgies. Parfois, la place des diptyques a été réduite. On va voir qu'elle a été conservée dans la liturgie syriaque et dans la liturgie de Saint-Jacques. À cette place, après la consécration, on fait mémoire des vivants et des morts pour lesquels le sacrifice est offert. D'autres liturgies ont eu d'autres places. Et probablement que la place la plus ancienne devait être à l'offertoire, puisque c'était un mouvement naturel. Les fidèles venaient avec le pain et le vin qui allaient être utilisés pour faire le sacrifice et disaient pour qui ils voulaient que le sacrifice soit accompli. La liturgie des Gaules procédait ainsi. Le rite d'Espagne, le rite mozarabe, utilise encore largement des diptyques très étendus à l'offertoire. Dans la liturgie romaine, on a les diptyques qui existent toujours, même si les fidèles n'y prêtent pas forcément attention parce qu'ils sont dans le canon romain et dans la liturgie traditionnelle, le canon est à voix basse, donc on ne l'entend pas. Le diptyque des vivants, memento, les deux memento, celui des vivants et celui des morts, qui encadrent la consécration avant et après. On fait mémoire, on prie pour autrefois pour l'empereur, pour le roi, et pour les évêques, pour le pape, et puis pour un tel et un tel. Et donc, les diptyques existent aussi dans notre liturgie romaine. Ça m'est apparu comme quelque chose de très intéressant. Je crois qu'on est pris par le temps, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. En fait, bon, on va se retrouver dans quelques minutes pour la seconde partie de l'émission, Henri de Villiers, et on pourra poursuivre sur les diptyques. Chers auditeurs, je vous dis à tout de suite dans quelques minutes pour la seconde partie de cette émission.
Merci. Ça a été une révélation pour moi en reprenant le texte de la liturgie de Saint-Jacques. J'ai pigé quelque chose. Et il faudrait écrire quelque chose là-dessus. Ce serait tout à fait intéressant. Vous savez que, Benjamin, le Vendredi Saint, dans le rite latin, il y a le chant de la Passion. Et puis ensuite, il y a les grandes oraisons. Les grandes oraisons catholiques. Et on a toujours... c'est une forme très ancienne, puisqu'on la retrouve dans les plus anciens manuscrits de la liturgie romaine. Elles sont présentes déjà dans le sacramentaire du pape Gélase, dans le sacramentaire du pape Grégoire, et ce sont des longues oraisons avec un genre de petite préface introductrice à chaque fois, prions, et puis ensuite une prière du célébrant. Et en fait, on a exactement la même structure dans les diptyques de la liturgie de Saint-Jacques, et en fait, les grandes oraisons du Vendredi Saint sont ni plus ni moins que des diptyques dans une forme très ancienne et très antique, qui n'a été conservée que le Vendredi Saint, à mon avis, et là je viens de de découvrir ça. Ça m'a tout à fait éclairé, j'en suis tout à fait ravi, désolé de vous embêter avec ça. Mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une commémoration de tous les fidèles, parce qu'on prie pour leurs besoins aussi dans ce cas-là. Non seulement on cite leur nom, mais on va prier pour les malades, on va prier pour l'abondance des fruits de la terre, on va prier pour les prisonniers, pour ceux qui souffrent, etc. Et le texte de ces différentes prières, on les retrouve aussi bien, avec des formes légèrement différentes bien sûr, mais la structure est la même dans les diptyques de la liturgie de Saint-Jacques et dans les grandes oraisons du Vendredi Saint romain. Donc sans doute quelque chose de très ancien, et comme souvent en liturgie, on n'ose pas modifier les moments les plus solennels de l'année, et le Vendredi Saint, on a gardé des choses sans doute très anciennes, parce que le modernisme liturgique au cours des années a préféré épargner les jours les plus saints. C'est une règle générale dans toutes les liturgies en fait.
Jusqu'en 1955.
Les diptyques de la liturgie de Saint-Jacques commencent par une prière, et je vais la lire parce qu'elle est... Après, je ne lirai pas tous les diptyques parce qu'ils sont extraordinairement longs. Mais, et puis, ils ont tous à peu près la même structure. Mais l'oraison du début est très intéressante parce qu'on voit tout de suite qu'on est à Jérusalem, en fait, quand on entend cette prière. « Nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice non sanglant. » Au nom de la Sainte Sion, la mère de toutes les églises, et au nom de ta Sainte Église dans le monde entier, afin que tu lui accordes le don de ton Saint-Esprit. Souviens-toi, Seigneur, de nos pères justes et droits, de notre patriarche, on cite son nom, de notre évêque, on cite son nom, des prêtres, des diacres et de tous les ordres de ton Église, en même temps que moi, misérable. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, mais fais-moi vivre selon ta miséricorde. Souviens-toi également de nos frères, les prisonniers, les malades, les infirmes, les affligés et ceux qui sont tourmentés par les mauvais esprits. Bénis l'air, la couronne de l'année, remplissant tout ce qui a vie, de bon vouloir. Et ensuite commence véritablement les diptyques. D'ailleurs, dans la liturgie syriaque, on parle de canon à ce moment-là. Donc, on retrouve la même idée d'une règle de prière qu'on a aussi avec l'utilisation de ce terme pour parler du canon romain, de l'anaphore de la liturgie romaine. Et on va avoir différents diptyques. Alors, un diptyque pour les différents prêtres, puis un diptyque pour le canon des frères, le canon pour lequel on prie pour les frères.
Puis après, pour les autorités, sûrement.
Pour les autorités, le diptyque des rois. Alors, il a gardé sa forme ancienne, il n'est pas devenu le diptyque des autorités, c'est le diptyque des rois. Souviens-toi, Seigneur des rois croyants, prends ton épée et ton bouclier, lève-toi pour les secourir, donne par ta puissance la victoire sur leurs ennemis. Dit le prêtre, pendant que le diacre dit « Nous commémorons ensuite les rois chrétiens qui ont élevé dans les quatre coins du monde des églises et des couvents et les ont gardés dans la vraie foi, tous ceux qui sont dans la hiérarchie chrétienne, les clercs, le peuple fidèle. » C'est remarquable que cette prière se soit conservée dans la liturgie syriaque jusqu'à nos jours, parce que les rois chrétiens et fidèles, ça doit être ceux jusqu'au début du 5e siècle, au 6e siècle, et ensuite c'est fini pour les syriaques. Donc on voit vraiment des prières qui ont été gardées dans leur forme primitive. On va faire aussi une commémoration des saints, de la Vierge, des prophètes, des apôtres, des martyrs, des confesseurs, de Saint Jean-Baptiste, de Saint Étienne, premier martyr, et ainsi de suite.
Est-ce que ce n'est pas abrégé parfois pendant la messe ?
Ça arrive parce que c'est quand même très très long, et les fidèles sont assis à ce moment-là. Et puis ça change en fonction de la liturgie et selon l'anaphore que vous utilisez, c'est plus ou moins long en fait.
Ça, c'est uniquement dans l'anaphore de Saint-Jacques.
Oui, c'est uniquement dans l'anaphore de Saint-Jacques. Ensuite, après ces diptyques, je crois qu'on est un peu pressé par le temps, malheureusement. Donc, on va. Mais les formes, vous savez, en latin, c'est oremus et pro. Prions aussi pour les catéchumènes et ainsi de suite, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, et ainsi de suite. Et on retrouve aussi souvent cette formule « prions ».
Mais est-ce qu'il y a la même structure que dans la liturgie du Vendredi Saint latine, avec donc « oremus pro un » et ensuite « oremus flectamus genua »
Simplement, c'est le diacre qui fait l'invitation, qui donne le thème de la prière. qui chante, et le peuple répond non pas, il n'y a pas Affectamus genois levate, mais il y a le peuple répond Kyrie eleison, après cette petite préface qui introduit la prière du célébrant à chaque fois. Voilà. Puis une fois que les diptyques sont achevés, on va passer à la fraction, qui n'est pas primitive, en tout cas les règles de la fraction dans la façon dont se fait la fraction du pain, qui est importante, hein, puisque c'est...
Et il n'y avait pas le credo après le canon ? Il n'y a pas le credo après le canon ?
Non, il est dans l'offertoire.
Il est dans l'offertoire, d'accord.
Le credo après le canon, c'est les Espagnols mozarabes qui font ça. C'est leur originalité. Les rites de la fraction, il n'y a pas le Notre Père tout de suite, c'est l'ancienne structure qu'on avait en Gaule avant Charlemagne, qu'on a toujours en Espagne, qu'on avait à Rome avant Saint Grégoire le Grand. C'est Saint Grégoire qui a passé le Notre Père à la fin du canon, mais là en Syrie on garde ce qu'on avait vu déjà chez les Assyro-Chaldéens, la structure la plus ancienne, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la fraction du pain, puis on dit la prière du Seigneur. Saint Grégoire a suivi la pratique de Constantinople en déplaçant le Notre Père à la fin du canon, tout simplement parce que l'évêque n'était plus à l'autel pour faire la fraction, et du coup il disait la prière du Seigneur, le Notre Père, à son trône, et Saint Grégoire préférait le dire devant l'hostie et le calice, comme cela se faisait à Byzance. Donc il a modifié la liturgie romaine sur ce point, mais là, la liturgie syriaque garde l'ancienne ordonnance. La fraction, donc, est un peu plus complexe. Elle s'est complexifiée au XIIIe siècle avec Denis Barsalibi, qui est vraiment le saint Thomas d'Aquin, version syriaque, jacobite, qui est un grand docteur qui a écrit énormément. Et puis on arrive au Notre Père. Alors là, on va pas manquer le Notre Père, puisque c'est quand même la prière que le Christ nous a apprise, et elle est chantée dans la langue même du Christ. Donc on va l'écouter.
Donc vous écoutez Radio Courtoisie et nous venons d'entendre le Notre Père enregistré en Syrie par le père Tony Cassis, donc dans la liturgie syriaque.
Voilà. On va réécouter le Notre Père, mais alors là, changement complet et radical d'ambiance, puisque ça va être un Notre Père en araméen, mais chanté par des Indiens de Bangalore, qui est la capitale de l'état de Karnataka, au nord du Kerala. Et ce sont des Syriaques orthodoxes, et c'est C'est un peu le kitsch, évidemment, mais je trouve ça assez touchant. Et puis, c'est un bon témoignage de l'élan évangélisateur de ces chrétiens syriaques jacobites dans le sud de l'Inde, et qui sont en train de se répandre dans toute l'Inde, d'ailleurs, et de constituer des communautés chrétiennes dans l'Inde.
Oui, plus de 3 millions, je rappelle, plus de 3 millions de fidèles de l'église syriaque jacobite en Inde. C'est la plus grosse partie de l'église. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, nous venons d'entendre notre père, donc toujours en syriaque, mais cette fois chanté en Inde, dans le sud de l'Inde.
À Bangalore. La Silicon Valley indienne, d'ailleurs. Et c'est pas impossible que dans les futures années, les meilleurs spécialistes mondiaux de langue syriaque soient des Indiens, d'ailleurs. C'est très touchant, je trouve, de voir ces Indiens se mettre à la liturgie en syriaque et avec ferveur. Alors là, c'est une composition par un prêtre de cette église qui n'est pas destinée à la liturgie, mais plus à l'édification des fidèles. Il garde quand même des formes assez traditionnelles, en général, dans la liturgie, plus que les malabars, en fait, hein, qui ont la liturgie parallèle du rite assyro-chaldéen. Voilà.
Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Henri,
on va essayer de finir la messe.
Donc, voilà, ça va bien.
Le Saint-Sacrifice, comme on dit en syriaque. Ensuite, on a quelque chose qui est assez récurrent dans quasiment tous les rites, même si ça a été... sauf le rite romain peut-être, mais c'est une élévation avant la communion, c'est-à-dire qu'on montre aux fidèles les saintes espèces, et on désigne ça sous le nom de sancta sanctis en latin, c'est-à-dire les choses saintes, les saints mystères sont pour les saints, et on le trouve dans la liturgie byzantine, on l'avait vu aussi dans la liturgie assyro-chaldéenne précédemment, on va le retrouver dans d'autres liturgies, on le retrouve en Espagne même, dans la liturgie mozarabe. Et là, le célébrant dit, prend la patène, l'élève devant ses yeux et chante « Les choses saintes sont données aux saints et aux purs ». Et le peuple répond « Le Père seul est saint, le Fils seul est saint, l'Esprit vivant seul est saint. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint vivificateur. Ils sont un jusqu'à la fin des siècles. Amen ». Après cette élévation, le clergé communie, le prêtre bien sûr pour commencer, puis les différents membres du chœur qui sont souvent très nombreux dans les églises syriaques. On a pléthore de diacres, de sous-diacres, de lecteurs, d'acolytes, avec des ornements et des étoles qui sont en fonction de leur rang. Puis vient la communion des fidèles.
Avec des couleurs très vives parfois.
Oui, aussi. Surtout en Inde.
Et, mais même au Proche-Orient, vous savez.
et en fait, le chœur chante des hymnes pendant la communion. Et il y en a une qui est très fameuse, qui a pour auteur non pas Saint Ephrem, la harpe du Saint-Esprit, mais Saint Jacques de Sarrougue, qui était lui qualifié de la flûte du Saint-Esprit, un père qui est mort en l'an 521, et qui était, qu'on peut dire, Saint Jacques de Sarrougue d'ailleurs, parce que même s'il avait refusé le concile de Chalcédoine, et était plutôt suspect de monophysisme ou de miaphysisme, il n'avait pas pris une part active dans les débats, et puis à l'époque l'Église n'était pas encore divisée entre anti-chalcédoniens et chalcédoniens, il n'y avait pas encore la double hiérarchie instaurée par Jacques Baradaï, de sorte que Saint Jacques de Sarrougue est non seulement saint chez les monophysites, chez les jacobites, mais aussi chez les maronites et même chez les nestoriens. Donc le texte est vraiment magnifique. Il est assez long, donc je ne pourrais pas le traduire en entier, mais ça commence par « Le Seigneur que les séraphins ont peur de regarder, vous, vous le voyez dans le pain et le vin sur cet autel ». On va l'entendre chanter par le chœur du Collegium Orientale à Rome, et qui suivent là une mélodie de tradition malankar du sud de l'Inde.
Alors, vous venez d'écouter cet hymne. Alors, il nous reste quelques minutes, Henri de Villiers, pour terminer la messe syriaque.
Eh bien, on va terminer avec le renvoi des fidèles. Dans le rite romain, c'est ite missa est. Allez, vous êtes envoyés. Évidemment, le lyrisme des orientaux va développer cette formule, même si substantiellement, c'est la même chose. Voici la formule du renvoi dans la liturgie syriaque. Allez en paix, nos frères et nos bien-aimés. Nous vous confions, vous et le viatique que vous avez emporté de l'autel purificateur de Dieu, à la grâce et à la miséricorde de la Sainte Trinité. Vous tous qui êtes proches ou éloignés, vivants ou morts, sauvés par la croix triomphante du Seigneur et marqués du sceau du Saint-Baptême, que la Trinité Sainte pardonne vos fautes et remette vos péchés, qu'elle ait pitié de moi, faible et pécheur, et que vos prières me viennent en aide. Allez en paix, contents, joyeux, et priez pour moi. Et nous aussi, nous allons aller en paix, contents, joyeux, et nous confions à vos prières, chers auditeurs de Radio Courtoisie.